Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va? Tout le monde va bien? Je préparais ce message et ce matin, je cherchais une chemise grise. Je me suis dit, je voulais une chemise grise, mais avec des nuances. Vous voyez, 50 nuances de gris. Je cherchais ma chemise, mais je n'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ça là avec plusieurs nuances. Mais voilà, c'était pour la blague. ouais, vous pouvez applaudir. Merci. Merci, merci. La sexualité, je trouve ce thème très intéressant d'aborder ce sujet. Puis je trouve que là, de mettre un sextoy, je trouve ça très intéressant parce que souvent on peut dire on va parler de sexualité, mais on ne va pas réellement en parler. Alors que là, ça va durer quand même février-mars, donc on a quand même 2 mois et à chaque semaine il y a 2 prédications, à chaque fois c'est différent. On va vraiment rentrer dans le sujet. Et je crois que ce message est pour tout le monde, parce que même quand on avait parlé des finances, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas concernés, parce qu'ils étaient étudiants, parce qu'ils étaient chômeurs, et puis avec quelques principes qu'ils ne pouvaient pas encore appliquer, mais on sait que ce sont des principes du royaume de Dieu, et que dans une prochaine saison, ils vont pouvoir l'appliquer. Et je crois que cette thématique aussi sur la sexualité concerne tout le monde. Concerne tout le monde, parce que ce sont des principes du royaume de Dieu, c'est ce que Dieu déclare sur la sexualité. Et avant de partager mon message, qui s'appelle « Sexualité et dialogue », j'aimerais mettre déjà la position théologique sur ce sujet. Ok ? Vous voulez bien ? Vous êtes de bonne humeur ? Ça va ? Parce que Dieu est Léo, hein ? Dieu est de bonne humeur. Alors, j'aimerais lire avec vous plusieurs versets qui vont apparaître sur la slide. À Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27. Il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Comme l'a dit Rodrigue tout à l'heure, Rodrigue a pris du temps hier pour développer la théologie biblique sur la sexualité. Alors écoutez-la. Si vous ne venez pas le samedi, vous venez que le dimanche, sachez que les prédications sont différentes. Alors, vous pouvez vous connecter dans les prochains jours sur les sites égliseclé.fr, écouter ce message, il a développé, il a pris tout un message pour développer cette partie-là, mais je vais juste reprendre quelques points. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il y avait en Dieu le côté mâle et le côté femelle. Et Dieu a créé séparément l'homme et la femme. Et plus tard, dans Genèse chapitre 2, 24-25, la prochaine slide est écrite « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Ils deviendront une seule chair. Et l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Et il est inscrit en nous une recherche de l'image totale. Ce besoin physique est aussi un besoin spirituel, de se retrouver homme et femme ensemble pour reconstituer l'image de Dieu. Et on peut dire qu'il y a une puissance et une autorité spirituelle dans l'acte sexuel. Et j'aimerais juste vous rappeler une chose. Quand Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël, Dieu avait demandé un signe physique à l'homme concernant cette alliance spirituelle. C'était quoi ? La circoncision. Dieu a dit, on va faire une alliance spirituelle et comme signe physique, tu feras la circoncision, quelque chose qui va concerner ton sexe. Parce que la sexualité et la spiritualité sont étroitement liées. À un point tel, écoutez bien, je vais lire juste le verset, je reviendrai là-dessus, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 17, il est écrit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Dieu, quand il fait alliance avec son peuple, il dit « On va faire ensemble un seul esprit. » Et comme signe physique, ça sera la circoncision, ça concernera ton sexe. Et dans les livres prophétiques, quand le peuple de Dieu s'éloigne de Dieu pour louer des faux dieux, qu'est-ce que dira Dieu ? Sur son peuple, il dira, vous êtes dans la prostitution. Dieu parle de prostitution. Parce qu'il y a quelque chose de fort et de spirituel là-dedans. L'acte sexuel ne concerne pas juste le côté physique. Pourquoi il y a tant d'enjeux sur ce sujet ? Pourquoi il y a tant on a eu des témoignages tout à l'heure, Rodrigue a lu comme quoi il y a vraiment une activité où, démoniaque de démoniser l'acte sexuel parce qu'il y a un principe spirituel fort. Dieu mélange, et tête mélange la sexualité et la spiritualité. Mais Dieu a créé un cadre, le mariage, pour profiter de la sexualité. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 16, verset 4, excusez-moi, j'essaie d'ouvrir la bouteille. Non, je galère. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le mot lit, en grec, se dit koité. C'est la prochaine slide, tu peux y aller. Koité. Ça marche pas, les slides ? Ok, je continue, c'est pas grave. Le mot lit vient du mot grec koité, qui a donné le mot coït ou relation sexuelle. Ce qui veut dire que les relations sexuelles doivent se faire uniquement sur un lit. Non, c'est la blague. Non, je rigole, c'est un peu partout, où vous voulez, d'accord ? Non, mais tout ça pour dire que Dieu n'est pas simplement pour le sexe. Dieu est pour l'épanouissement sexuel. Et que si Dieu a créé le... Écoutez la prédication d'hier, vous allez voir, c'était juste incroyable. Et Dieu est pour l'épanouissement sexuel. Et j'aimerais voir avec vous ce matin mon message qui s'appelle « Sexualité et dialogue ». Vous savez, le premier besoin de l'homme et de la femme, c'est la même chose, c'est l'amour inconditionnel. Je veux que tu m'aimes pour ce que je suis. Peu importe ce qui se passe, je veux que tu m'aimes. Et ça, c'est un besoin, premier besoin pour l'homme et pour la femme. Et il y a un deuxième besoin de l'homme et de la femme. Et là, ça commence à être différent. Parce que le deuxième besoin de l'homme, c'est la sexualité. Alors que le deuxième besoin de la femme, c'est le dialogue. Je ne suis pas en train de dire que les femmes n'aiment pas le sexe. Hein, d'accord ? Mais je dis que l'intimité pour un homme, c'est la sexualité. Alors que l'intimité pour une femme commence par le dialogue. Commence par un contact émotionnel. Et il y a Barbara Rosberg, je feuilletais quelques livres ces derniers jours, et c'est une auteure chrétienne qui dira « À quoi Dieu pensait-il en créant les maris avec si peu d'énergie pour communiquer et si peu d'enthousiasme pour parler à cœur ouvert quand ils sont sous l'emprise du désir ?» Là, les hommes disent « Ouais, je vois pas le problème. » Mais il y a une telle différence entre les hommes et les femmes, et le but de mon message va être très simple. C'est des choses qu'on sait tous, pour la plupart, mais il est tellement bon de revenir sur les bases. Et je ne vais pas rentrer réellement dans la sexualité, mais je vais juste parler de ce qui se passe en amont. La communication, la sexualité et le dialogue. Et le but de mon message est celui-ci. C'est que si une femme réagit sur le plan sexuel, que si son besoin de tendresse et d'affection sont comblés. L'homme, quant à lui, répond aux besoins de tendresse uniquement si son besoin sexuel est comblé. Et quand les rouages fonctionnent très bien, le couple va très bien. Mais il peut y arriver dans la vie d'un couple qu'à différents degrés, à différents niveaux, qu'il y a des grains de sable dans le rouage. Et tout d'un coup, la femme ne se sent plus comblée émotionnellement, donc n'est plus attirée par son mari. Puis le mari, n'ayant plus de relation sexuelle avec sa femme, qu'est-ce qui se passe ? Il est moins tendre, il prend de la distance avec sa femme. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux. Hein ? Et on sait que le cercle vicieux est installé dans un couple quand une femme non comblée émotionnellement se voit comme un objet devant les avances sexuelles de son mari, en disant « je ne suis qu'un objet, je suis juste un désir ». Et l'homme qui n'est pas comblé sexuellement ne se voit pas comme un homme. Je parle de le fait de se sentir homme dans la virilité. Et à ce moment-là, dans son cœur et dans ses attitudes, il ne se sent pas capable de répondre aux besoins de sa femme. Et là, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Et on oublie que Dieu nous a créés différents. Et à ce moment-là, l'homme et la femme regardent à son besoin, désirent être comblés, au lieu de penser à l'autre. Et là, il y a toutes sortes de choses qui se créent. Et si on est marié depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a tous peut-être à différents degrés, à différents niveaux, vécu cela. Et j'aimerais lire un chapitre un autre passage dans la Bible qui parle de cela, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5, l'apôtre Paul dira que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je fais une petite parenthèse ici pour voir à quel point, encore une fois, la sexualité et la spiritualité sont étroitement liées. Il dit, si tu dois te priver de sexe, c'est uniquement pour aller prier. Je ferme la parenthèse, allez écouter la prédication de Rodrigue, il en parle. Ça va, je fais assez de pub, c'est bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, mon corps ne m'appartient pas. Il appartient à ma femme. Et le corps de ma femme ne lui appartient pas, il m'appartient. Et dans le regard de Dieu, dans l'intention de Dieu, c'est de ne pas utiliser le corps de l'autre en disant, pour répondre à mes besoins. Mais c'est de dire, je comprends l'intuition, je comprends le cœur de Dieu, et je vais répondre aux besoins de l'autre. Parce que son corps m'appartient, je vais répondre à ses désirs. Je vais répondre à son langage d'amour. Je vais comprendre comment elle fonctionne. Et si les deux fonctionnent comme cela, on est dans la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus dira, non, c'est pas Jésus qui parle, mais il y a un texte qui, je sais plus où il se trouve, où il dit, femme, non, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5. Il s'est livré lui-même, mourant sur la croix, pour son épouse. Il s'est livré. La meilleure preuve d'amour, c'est de ne pas d'utiliser ou de prendre, mais c'est de se livrer. Et il y a quelque chose de puissant. Et le cœur de Dieu, c'est de dire, mon corps ne m'appartient pas, comme dit l'apôtre Paul là, mais mon corps appartient à ma femme. Ma femme, son corps m'appartient, mais je vais tout faire pour me livrer, pour répondre aux besoins. Je mets de côté mes besoins sexuels, je mets de côté mes fantasmes, je mets toutes ces choses. Je vais répondre aux besoins de ma femme, je vais répondre à ses fantasmes, je vais répondre à son besoin émotionnel, je vais répondre au fait qu'elle se sente sécure. Et de l'autre côté, automatiquement, ma femme va être dans la même dynamique en disant « je vais répondre à ses besoins ». Amen. Alors, j'ai pris un proverbe qui ne parle pas de sexe, mais je trouve qu'on peut quand même l'utiliser. Dans Proverbes chapitre 12, verset 11, il est écrit « celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance, mais celui qui court après des chimères est dépourvu de sens ». Amen. Oh. Parce que Dieu nous donne une terre, permettez-moi de prendre ce texte et de l'utiliser différemment, mais je crois qu'on reste dans la pensée biblique, c'est de dire, je ne vais pas me concentrer sur des chimères, mais je vais prendre soin de ma terre. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, veillez à ce que la terre soit fertile, veillez à ce que la végétation puisse pousser. Et là, dans cette époque-là, c'était quand même y planter le blé et de dire, je ne mourrai pas de faim. Des gens qui sont peut-être dans des cercles vicieux et qui disent « mais je crois que je me suis marié avec une femme qui n'aime pas le sexe » et la femme qui dit « mais pourquoi je me suis marié avec un homme qui ne me comprend pas ?» La Bible dit « celui qui prend soin de sa terre, qui va être concentré sur sa terre, aura du pain en abondance. » Amen. Vous savez, la priorité de Dieu, quand j'étudiais ce sujet, j'ai été interpellé par un texte pour montrer que Dieu n'est pas simplement pour le sexe, Dieu est pour l'épanouissement sexuel. Avant de lire un texte qui est pour moi un texte très fort, je vous place le contexte. Le peuple d'Israël vient de quitter l'Égypte et ils vont dans la terre promise. Et ils arrivent proche du Jourdain et derrière le Jourdain, il y a le Canaan. Et là, le Canaan, c'est la destinée du peuple d'Israël. Ils vont prendre leurs armes, ils vont aller en guerre, ils vont se battre pour entrer pleinement dans leur destinée. Il y a chaque tribu d'Israël, chaque tribu aura sa terre, et tout le monde est là en disant « je vais prendre l'épée, et puis je vais combattre, et je vais prendre mon terrain, je vais prendre ma terre, je vais entrer pleinement dans ma destinée ». Et ils sont tous galvanisés, ils sont tous là en disant « allez, 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 on va traverser le Jourdain ». Et à ce moment-là, Moïse donne certaines lois, et il en donne un sur la vie de couple. Et il dira, dans Deutéronome 24, verset 5, il dira « lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il a prise. » Amen. Le mot réjouira, ça applaudit là. Le mot réjouira, dans d'autres versions dira rendre heureuse, se rapporte au plaisir sexuel. Et Dieu, en d'autres mots, a décrété en disant « ni guerre, ni labeur ». Il parle aux hommes et dit « tu prends un an pour apprendre à procurer du plaisir à ta femme ». Et c'est ça le cœur de Dieu. Et écoutez bien, cette parole arrive dans un moment bien précis où le peuple d'Israël devait rentrer dans leur destinée. Chaque personne devait aller combattre pour rentrer dans leur destinée. Donc dans le cœur de Dieu, l'épanouissement sexuel dans un couple passe avant ta destinée. Parce qu'ils ne pouvaient pas combattre pendant un an. Alors qu'ils étaient tous là, allez, on va aller prendre notre terre et tout, on traverse Canaan, on y va. Dieu dit, non, la priorité pour toi là, un an, apprends à donner du plaisir à ta femme, apprends à lui procurer du plaisir, il faut qu'elle puisse se réjouir pendant un an. C'est ça le cœur de Dieu. Et ça a toujours été son intention. Alors j'aimerais parler aux hommes. Après je parlerai aux femmes. Alors mon deuxième point, c'est pour les hommes, ce que la femme recherche. Selon la parole de Dieu, il est écrit dans Proverbes 19, verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, j'ai mis le mot en hébreu, c'est sa kessed, ou son kessed. Parce que ce mot elle peut être traduit de différentes manières. Alors les hommes, si vous pensez que ça veut dire sexe, il faut faire des cours d'hébreu, c'est pas ça. Okay, c'est pas ça qui fait le charme d'un homme. Ce mot a été traduit de différentes manières et j'ai pris dans l'Ancien Testament toutes les définitions de ce mot kessed. Et j'aimerais que vous puissiez, tu peux mettre la slide s'il te plaît, continue à appuyer, ça va arriver. Non, ok, marche pas, c'est pas grave. Le mot kessed veut dire bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ça a été traduit aussi par grâce, par miséricorde. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bienveillance, c'est son amour, c'est son attachement, c'est sa faveur. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est son affection, sa piété, sa compassion, le fait d'être bienfaiteur. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est d'être aimable, d'être clément. Le mot kessed veut dire aussi éclat, bien, bon. Ce qui est génial dans ce texte, c'est que Dieu nous donne des clés pour augmenter notre capital charme. Alléluia! C'est incroyable! C'est bon! C'est bon! Et je trouve ça intéressant et de dire, ok, je vais travailler mon kessed, je vais travailler ma bonté, je vais travailler mon amabilité, je vais travailler ma grâce, je vais travailler tout ce que vous voyez là, je vais travailler mon amour, ma compassion, pour que dans mon couple, mon capital charme augmente. Amen. Vous savez, j'ai feuilleté quelques livres, j'ai pas mal de livres à la maison sur les relations hommes-femmes, sur la sexualité, que j'ai pris du temps avant de le lire. Ma femme les avait achetés il y a un moment, déjà. Mais il y a un livre qui date quand même, mais j'ai beaucoup aimé le titre. Le titre, c'est « Les hommes sont des gaufres et les femmes sont des spaghettis ». Vous connaissez ce livre ou pas? Et ce livre est intéressant. Parce que, bon, il parle un petit peu de sexualité, juste sur un chapitre, mais il va surtout parler un peu de comment fonctionne l'homme et comment fonctionne la femme. En disant, l'homme, lui, il fonctionne par des cases. Okay ? Nous, les hommes, c'est par cases. C'est, on ouvre un dossier, et puis quand on doit parler d'autre chose, on ferme le dossier, on ouvre un autre. D'accord ? On n'est pas multitâche. D'accord ? Et si, il y a des hommes qui sont multitâches, c'est juste que leurs côtés féminins sont beaucoup plus développés. Hein ? Okay ? Ah, ils ont le droit d'approcher la perfection, quand même. C'est... Mais ça peut faire cliché ce que je dis, mais c'est une réalité. On fonctionne comme ça, on fonctionne par dossier, on fonctionne par dossier, on ouvre un dossier, on veut parler d'un autre, on ferme, on ouvre l'autre. Alors que les femmes, c'est spaghetti, c'est-à-dire tout est mélangé. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne, alors que pas du tout. Tous les dossiers sont ouverts, les femmes sont multitâches. Les hommes sont séquentiels, les femmes sont multitâches. Elles sont là, et ils ont plein de dossiers ouverts et elles arrivent à penser à tout en même temps. C'est juste incroyable. Et on fonctionne différemment. Et ce livre parle de cela. Les hommes sont des gaufres, les femmes sont des spaghettis. Puis si je veux juste donner une image de cette réalité, vous savez, je me permets de raconter une petite histoire. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec personne. C'est juste une histoire que j'invente pour montrer là, cette réalité-là. Vous savez, ce genre de situation où un homme quitte le boulot Et la première chose qu'il pense quand il rentre dans sa voiture, c'est de dire « Ce soir, je fais l'amour à ma femme. » Et là, comme il fonctionne par objectif, d'accord, il ferme tous les autres dossiers, peu importe comment on les ferme. Hein, il y a des difficultés, c'est pas grave, je les ferme ce dossier. Ah, là, je devais répondre, c'est pas grave, je ferme le dossier, je ferme les dossiers, puis j'ouvre le dossier sexe. C'est « Ce soir, je fais l'amour à ma femme. » Et alors qu'il rentre chez lui, qu'est-ce qui se passe? Sa femme est arrivée plus tôt. Il y a les enfants, donc elle gère les enfants, elle est arrivée plus tôt, donc là, ça crie, ça pleure, il y a des jeux partout, il y en a un qui est dans le bain, et puis le repas qui est en train de cuire, et puis en même temps, la femme est au téléphone avec sa copine parce qu'il fallait un bonnet rouge, parce que demain, il y a un spectacle à l'école, donc elle demande en urgence, est-ce que tu as un bonnet? Les femmes sont multitâches, elle arrive à faire plein de choses à la fois. Et puis en même temps, elle dit, mais pourquoi mon mari n'y a pas pensé? Il est parti chercher les enfants? Il n'a pas vu le petit mot dedans. Alors l'homme dit, bah attends, tu m'as dit d'aller chercher les enfants. Tu ne m'as pas dit de regarder dans le cartable et tout. Je ne suis pas multitâche. J'ai récupéré les enfants. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Donc la femme, elle ouvre le sac. Elle voit les petits mots de l'école. Et puis tout d'un coup, elle dit, en plus, mon mari, ce matin, est parti super tôt. Il est parti en urgence. Il ne m'a même pas pris dans ses bras. Il ne m'a même pas dit je t'aime. Par contre, son café, il n'a pas oublié son café. C'est fou, ça. Il ne peut pas commencer sa journée sans son café, mais il peut commencer sa journée sans me dire « je t'aime ». Il va falloir que je lui en parle. Et là, la femme, elle a plein de dossiers ouverts, multitâches. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme rentre chez lui, ouvre la porte, et comme il n'est pas multitâche et il y a juste un dossier ouvert sexe, il ne voit pas qu'il y a plein de choses qui se passent, ce n'est pas le moment. Il regarde sa femme avec la lueur d'espoir et dit « toi, ce soir, je te fais l'amour ». Parce que les autres dossiers sont fermés, il ne voit que ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la femme, elle dit pour rester gentille? Elle dira juste « non ». Non et non, ce n'est pas le moment. Et il va montrer des signes, tout faire pour vite coucher les enfants, de dire « tu ne t'es pas brossé les dents, ce n'est pas grave, tu te brosseras demain, vas-y, va te coucher. Hein » C'est ça là. « T'as pas eu de dessert, c'est pas grave, t'en auras deux demain, t'auras deux, vas-y, vas-y. Va te coucher, tout faire pour répondre à son besoin, sa case sexe. » Alors que la femme ne fonctionne pas comme ça. Oui, je l'ai inventé, hein. C'est pas... Non. Ça se passe pas comme ça. Non, mais c'est vrai que j'ai des enfants, c'est vrai qu'en vrai... Non. Marion n'a pas voulu être là, elle a dit non, je peux pas être là. Ce matin, elle m'a dit, écoute, je suis avec toi, mais non, je peux pas. Alors que, voilà, on pourrait répondre, de savoir comment l'homme pourrait répondre, mais juste la femme a besoin d'un contact émotionnel avant d'envisager quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que la femme a besoin? La femme a besoin d'être proche sur le plan émotionnel. La femme a besoin d'être écoutée, d'être comprise. La femme a besoin de sentir qu'elle est la première à vos yeux. La femme a besoin de bénéficier de votre attention soutenue, de sentir que vous la respectez en tant que personne, d'être davantage considérée que les autres, et de savoir que pour vous, elle a une grande valeur. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, est écrit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières, et agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Je ne sais pas pourquoi ce dernier passage arrive là dans ce contexte, je ne sais pas. C'est une réalité, on fonctionne différemment. Et je continue à parler aux hommes juste pour dire que les préliminaires ne commencent pas 15-20 minutes avant l'acte sexuel. Ou une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, hein, en fonction de l'ego et l'orgueil de chacun. Mais les préliminaires commencent le moment où je me réveille, où on se réveille, et le moment où on se couche. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire pour répondre aux besoins de tendresse, d'amour, et de répondre à un besoin émotionnel, notre femme, ce sont les préliminaires. Vous savez, moi j'avais fait... conférence sur ce sujet il y a quelques temps, puis enfin, il y avait un petit moment déjà, lu pas mal de livres là-dessus, et il y a quelque chose que je fais avec ma femme qui, je trouve, est extrêmement simple, mais ô combien bénéfique. C'est cette petite phrase qui change la vie d'un couple, c'est de dire, chérie, sur une échelle de 1 à 5, où en es-tu dans ta jauge d'amour? Dans le fait d'être comblé émotionnellement, t'en es où? C'est important de poser cette question. Parce que nous, les hommes, on pense que parce qu'on fait quelque chose, ça y est, quoi, let's go, on devrait nous applaudir, tapis rouge, t'as vu ce que j'ai fait, attends, oh, oh, oh! Alors qu'on était à moins 20, on est juste passé à moins 10, on est encore débiteurs, les hommes, oh! Et on ne comprend pas. On se dit, mais attends, avec tout ce que je fais, attends, est-ce que tu es débiteur ou tu es créditeur? Et de dire, ok, j'en suis où? Et là, je suis à 3, ok, très bien. Puis là, tu continues, tu donnes de l'amour, réponds à son besoin. Puis là, je suis à 4, je suis à 5. Et là, quand tu es à 5, yeah! Alors, ce qui est important quand votre femme est à 5, c'est du lendemain ou le surlendemain de lui reposer la question pour savoir si ça se vide vite ou pas, hein. C'est quand même important. Parce que si le lendemain elle est à 3, là il faut faire quelque chose, dire écoute là c'est pas possible. Mais je trouve que ce principe là apporte un équilibre dans le couple, d'avoir des moments de discussion, de dire ok, j'en suis où, t'en es où, 3,75, ok, très bien, tu le gères, très bien, écoute, let's go, on y va. Et si je devais finir cette première partie pour les hommes, s'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci. Elle va s'afficher. Quand vos âmes se défaitent, vos corps suivent naturellement. C'est pas mal, hein? Ça vient pas de moi. Mais c'est tellement vrai dans le cœur d'une femme, cette réalité-là. Quand vos âmes se défaitent, vos corps suivent naturellement. J'aimerais passer à ma deuxième partie, parler aux femmes. Ce que les hommes recherchent, c'est la partie de ma prédication la plus courte. Alors, je vais citer quelques versets, juste deux versets, ce que les hommes recherchent. Le premier, vous pouvez le stabiloter dans vos Bibles. Dans Cantique chapitre 1, verset 13, est écrit « Mon bien-aimé, pour moi, un bouquet de myrrhe, il passera la nuit entre mes seins. » Hallelujah. Le cantique des cantiques est juste incroyable. On peut le lire comme ça, et on sait, il y a la jeune femme, il y a le jeune homme, et puis ils se cherchent. Et puis, on sait qu'il se passe des choses. Mais si on prend le temps de les lire, et que parmi toutes sortes de séductions, qui n'est plus du tout à la mode, et si on arrive à comprendre ce qui se passe, je vous le dis là, ce livre, on peut se demander, d'ailleurs même certains pères de l'Église se sont dit, mais pourquoi le cantique des cantiques se trouve dans la Bible? Parce que Dieu parle de sexe. Écoutez ce passage. Cantique, chapitre 4, versets 10 à 16. J'ai coupé certaines parties, j'expliquerai pourquoi, et comprenez ce qui se passe. Une discussion entre le jeune homme et la jeune femme. Le jeune homme parle et dit « Ton amour est délicieux. Tes lèvres, ma fiancée, distillent un nectar pur, et sous ta langue coule du miel et du lait. » Dites pas ça à vos femmes, hein, elles vont vous dire non, c'est plus à la mode. Tu es un jardin bien clos. Ô toi, ma sœur, ma fiancée, tu es une source close, une fontaine scellée. Et là, le jeune homme se rend compte que le jardin est bien clos. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va passer par un temps de séduction. Il va passer par un temps où il va dire tout ce qu'il pense de sa fiancée. Et à ce moment-là, la fiancée, touchée par l'amour de son jeune homme, déclarera « Viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exaltent et que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. » Ça ne parle pas de verger, là. Ok ? Le jardin bien clos de la femme est devenu le jardin du mari, en disant « Pénètre dans ce jardin-là et goûte les fruits exquis. » Dieu a créé chez l'homme un puissant désir sexuel. Et comme je le disais tout à l'heure, quand la femme n'est pas comblée émotionnellement, elle voit les avances, elle se voit comme un objet devant les avances sexuelles de son mari. Et un homme qui n'est pas comblé sexuellement, je le répète, qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? C'est qu'il ne va pas se sentir homme. Il va se sentir émasculé. Et Dieu l'a créé comme ça, un homme a un besoin puissant de désir sexuel. Alors qu'est-ce que l'homme a besoin? L'homme a besoin d'être surpris par l'initiative de sa femme dans le domaine sexuel. L'homme a besoin de se sentir aimé, de se sentir désiré, de ne pas se sentir délaissé à cause des situations de la vie. Et l'homme a besoin d'être valorisé. Et si j'ai une phrase à retenir, c'est celle-ci. Faites l'amour à votre mari de manière passionnée et sans honte, le valorise et fait de lui un homme comblé et un homme sûr de lui. Ça joue sur son identité. Alors, pour finir ce message, je veux juste rappeler certaines choses qui ont été annoncées. Ce sont des choses que, encore une fois, qu'il est bon de se rappeler. C'est que pour l'homme, l'intimité égale sexualité. Alors que pour la femme, l'intimité, c'est le dialogue. Et je répète ce que j'ai dit, la femme réagit sur le plan sexuel que si son besoin de tendresse et d'affection sont comblés. L'homme, quant à lui, ne manifeste que de la tendresse quand son besoin sexuel est comblé. Mais quelle est la volonté de Dieu ? L'intention de Dieu, elle est celle-ci, et elle s'affiche sur la slide. L'homme prend soin de sa femme et la comble émotionnellement. Pour la femme, les relations sexuelles dans ce contexte deviennent juste le prolongement de sa santé émotionnelle. L'homme, comblé sexuellement dans ce contexte, entoure encore plus sa femme de tendresse et d'amour. Et là, le cercle vicieux est brisé, c'est un cercle vertueux qui prend place. Et là, c'est là où Dieu bénit, et c'est là où Dieu envoie sa faveur. Et là, il y a la santé, et c'est le but, et l'intention, et le cœur de Dieu pour les couples. Amen. Amen.